Alors, vous avez lu comme moi cette phrase étonnante dans le numéro 24 de Gaudium et Spes. Il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Alors ça paraît tout simple, mais enfin ça l'est finalement, une simplicité divine. C'est que du coup, à l'image de Dieu prend une résonance toute particulière, en ce que l'homme est à l'image de Dieu en tant que communion de personnes, que communion trinitaire. Et donc l'image de ce Dieu trinitaire, qui est Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, qui est communion de personnes, dans une unique nature divine, donc un seul Dieu en trois personnes, eh bien, trouve son image en l'humanité, en ce que l'humanité elle-même est communion de personnes. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, Adam est créé comme un être, on va dire, ni homme ni femme, il a un nom qui est Adam. Et puis, Dieu parachève sa création à l'image en le créant Ish et Isha, homme et femme, et donc communion. Et ce Ish et Isha, cette communion de l'homme et de la femme, sont au cœur de la communion des hommes entre eux, puisque l'homme est communion de différence, en ce que l'homme est homme et femme. Adam, il est Ish et Isha, il est homme et femme. Le Adam qui est créé à l'image de Dieu, il est communion de personnes. Et cela sera vrai, du coup, de la descendance d'Adam et Ève, et donc de toute l'humanité. C'est inscrit dans le cœur de l'homme à l'origine. Et donc nous sommes à l'image de Dieu dans la communion que nous avons les uns avec les autres. C'est de nature, en quelque sorte. Le commandement de l'amour que vous avez lu dans les Écritures, c'est pas une sorte d'exhortation pour nous améliorer. C'est un chemin pour être nous-mêmes. C'est une l'amour mutuel, la communion entre nous, elle est de nature, elle procède de notre nature la plus profonde, comme étant homme créé à l'image de la communion des personnes trinitaires. Alors, de ce principe très puissant, vous voyez, jaillit une anthropologie, une conception de l'homme très particulièrement chrétienne. C'est que si Dieu est communion de personnes, l'homme est donc est à l'image en tant qu'il construit, qu'il bâtit cette communion, ou on pourrait dire aussi cette alliance, dans un processus, alors on verra ça tout à l'heure. Du coup, vous comprenez aussi combien, dans mon deuxième point, donc le texte du Concile fait le lien entre l'achèvement de la personne, le déploiement de la personne, et le déploiement des relations sociales, des relations avec les autres, qui sont tout un. Là encore, on ne doit pas être quelqu'un de parfait pour rentrer en relation avec les autres, mais nous nous rendons parfaits dans la relation. Et ça, on le voit combien un enfant va se déployer dans la première école qui est la sienne, qui est l'école de sa famille. Et puis, les parents, généralement, sont assez unanimes pour dire que les enfants allant à l'école élargissent le cercle de leur relation, de leur capacité relationnelle. Pourvu que ça se passe bien, évidemment, pourvu que ça se vive dans la confiance, dans l'amour, évidemment, et dans un processus, encore une fois, c'est parce que l'enfant pleure et crie sa maman après sa maman dans les premiers jours, que c'est un échec, bien sûr, eh bien, va se déployer, et puis ça va aller ainsi grandissant. Je vois ça pour les colonies de vacances, par exemple, c'est vrai que les parents sont généralement assez unanimes pour voir leur enfant ayant fait un progrès de maturité personnelle fort, quoi, en seulement une semaine ou deux semaines. Dès lors, travailler au bien commun, qui est un des fondements de la doctrine sociale de l'Église, c'est travailler à l'essor et à l'achèvement de ma personne et de la personne et des personnes dont j'ai la charge, enfin, avec qui je suis en lien, notamment ma famille. C'est pour ça aussi que voilà, c'est le curé qui parle, mais tout doit être pondéré et équilibré. Mais de dire je ne prends aucun engagement public ou aucun engagement ecclésial pour sauvegarder ma famille, c'est la meilleure manière de ne pas sauvegarder sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on doit se perdre dans et fuir sa famille et sa femme ou son mari dans des engagements, vous voyez, dans un déséquilibre qui serait mauvais, bien sûr, et ça restera toujours mauvais. Mais en fait, on ne sert pas sa famille en se claquemurant avec sa famille, évidemment. Et on sert sa famille aussi parce qu'on déploie des alliances en dehors de la famille, les parents, mais aussi les enfants, qui font grandir la cellule familiale, et dans cette famille cellulaire, font grandir les personnes. Je vous avais raconté ma petite histoire du grand-père qui avait refusé de m'aider au patronage pendant longtemps, qui était très doué, en me disant, vous comprenez, j'ai mon propre patronage, j'ai mes 25 petits-enfants, je n'ai pas le temps de m'occuper des enfants de votre patronage. Vous comprenez, mon père, la famille est prioritaire. Bon. Alors cet homme, je l'ai un peu harcelé, mais je lui ai demandé plusieurs fois de venir m'aider, et puis il a fini par venir. Il s'est engagé au patronage le mercredi, à cause du Seigneur. Vraiment, il a fait, écoutez, c'est le père, je le fais pour le bon Dieu. Bon. Et donc, il s'est occupé des enfants pour le bon Dieu. Et il a découvert, du coup, le lien de grand-père à petits-enfants, finalement, à cause du Christ, dans une relation de disciples. Et il a découvert dans les enfants aussi des disciples, quand il les entendait prier, amener des copains, etc. Et lui, après, est venu me remercier en disant, père, grâce à vous, je vois et je vis avec mes petits-enfants d'une manière complètement différente maintenant. Parce que j'ai pu découvrir de ma relation aux enfants au patronage, a profondément transformé la relation que j'ai avec mes propres enfants, petits-enfants que je considère pas seulement comme mes enfants issus de mes enfants, mais aussi comme des disciples, comme des enfants de Dieu et comme des disciples. Et ça enrichit beaucoup la relation que j'ai avec eux. Voilà, bon, c'est un petit exemple, mais on pourrait multiplier par mille manières, et pas seulement avec l'Église, mais que cette famille en alliance avec d'autres enrichit la famille et dans la famille les personnes elles-mêmes. Alors bien sûr, cela est vrai du coup de la paroisse, enfin de toute entité sociale par rapport à l'extérieur de cette paroisse. Et ça va bien sûr toucher, enfin je vais revenir tout à l'heure dessus, mais notre projet Emmaüs. C'est pas. Enfin, j'en dis pas plus, j'en reviendrai tout à l'heure. Alors, il y a une seconde phrase assez choc qui compare la communion humaine avec la communion trinitaire. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre, que Dieu a voulu pour elle-même, ça aussi c'est peut-être un peu obscur, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que dans la communion trinitaire, le Père se donne tout entier dans le Fils. Toute sa personne est tournée vers le Fils, est donnée au Fils, en quelque sorte. Et le Fils ne fait rien, c'est ce que Jésus nous dit avec ses mots humains, je ne fais rien en dehors de ce que je vois dans l'Esprit, faire, enfin, de ce que le Père me dit de faire et de dire. Je ne suis en rien en dehors de la volonté de mon Père. Toute ma vie est pour servir le Père. Et donc, d'une certaine manière, Jésus ne garde rien. Il est tout entier tourné vers le Père, et le Père tout entier tourné vers lui. Dès lors, nous ne sommes pas à l'image de Dieu seulement parce que nous sommes communion de personnes, mais nous sommes à l'image de Dieu parce que nous sommes capables, appelés, capables, de nous donner totalement à l'autre. En fait, de le trouver notre être et notre identité la plus profonde que dans la relation et dans le don total et dans la réception aussi totale de l'autre. Alors ça aussi, c'est un processus, ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas pervertir ça en disant il y a des personnes qui ont une relation fusionnelle à l'autre. et qui dit ben, je ne vis que par l'autre. Non, en fait, ils se détruisent mutuellement dans une relation fusionnelle. C'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Le don à l'autre, c'est je suis moi, et parce que je suis moi, je sais qui je suis, et je suis assez fort pour pouvoir me donner à l'autre. Et en se donnant à l'autre, on ne se détruit pas soi-même, au contraire. On grandit, on s'accomplit totalement. Et en cela, la relation homme-femme est une clé de ce don mutuel. L'homme et la femme, dans la relation conjugale, se donnent, non pas en méprisant sa masculinité, en s'ouvrant à la féminité, ou en méprisant sa féminité, en s'ouvrant à la masculinité, mais au contraire, dans l'ouverture mutuelle, achève sa masculinité dans l'ouverture à la féminité et inversement. Et de même, telle personne, Janine, qui se donne à Roger, ben Roger, Janine s'achève, se complète pleinement comme Janine, comme personne unique, dans le don qu'elle fait d'elle-même à Roger. Et ça encore, c'est un processus, c'est une vie, c'est pas un état d'esprit sur le moment. Seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ça peut peut-être être un peu mystérieux aussi, ça, c'est un peu à la marge, mais pas complètement. C'est-à-dire que dans le dessein de Dieu, comment dirais-je, je sais pas, on pourrait dire que, bon, c'est peut-être pas ce que je veux dire, mais les fleurs sont pour les abeilles, les abeilles sont pour, je sais pas, les arbres fruitiers, sont pour les abeilles font du miel pour leurs petits parce qu'ils se nourrissent tout l'hiver avec, mais font du miel aussi pour les ours et pour c'est pas lié, donc tout est lié et tout est en quelque sorte imbriqué l'un dans l'autre. Mais l'homme, lui, il est fait ni pour les abeilles ni pour les ours ni rien. En fait, tout est fait pour lui. C'est ça le dessein de Dieu, non pas pour qu'il écrase, détruise, méprise cette création qui est tout entière pour lui, pas du tout, pour entrer en alliance avec elle et profiter de ses dons sans la détruire. Mais néanmoins, nous sommes les seuls êtres sur la terre qui sont voulus pour eux-mêmes, qui ne sont pas voulus en vue de quelque chose, nous ne sommes voulus que pour nous-mêmes. Et pour nous-mêmes, et pour une alliance libre, et dans l'amour, et dans la vérité, dans la lumière, avec Dieu. C'est pour ça, c'est ça que ça veut dire, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Pour elle-même, ça veut dire pour elle-même, dans le don d'elle-même à l'autre. Bien sûr, c'est là où on peut avoir une petite confusion. C'est pas pour elle-même dans un égoïsme pour moi, quoi. Je suis moi-même dans le don à l'autre, dans l'ouverture à l'autre. Pas dans l'enfermement, bien sûr. Ça va ? Ok, donc ça c'était le point 2. Alors, on va passer au point 3. Donc, en fait, un être d'alliance, c'est comme ça que je titrerai mon petit causerie, l'homme comme un être d'alliance, d'alliance multiple. En fait, dans l'intitulé, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le programme commenté sur les 15 séances, je parle d'un passage de la toute-puissance à l'alliance. On pourrait dire d'une mentalité de immature à une maturité de la personne humaine. La toute-puissance, c'est l'emprise que je vais avoir sur ma maîtrise et l'emprise que je vais avoir sur mon univers, et mon univers qui va grandir de plus en plus, et donc j'ai de plus en plus de maîtrise et d'emprise. Ça, c'est la logique de toute-puissance. Mais ça peut être, c'est pas forcément pour un dictateur, hein. Ça peut être des parents peuvent être totalement là-dedans, par exemple. Dans la manière de contrôler, d'être intrusif, d'être tout le temps angoissé, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, où ils vont, enfin, puis avoir une espèce de toute puissance, puis avoir aussi des toutes puissances qui s'exercent par l'affectivité, par la, je crois, l'aspect fusionnel, l'affectivité. pourquoi tu me fais ça, mon petit chéri? Et en fait, ce n'est qu'un instrument de puissance sur les personnes. Donc, c'est complexe, en fait, la toute puissance. C'est pas seulement Hitler qui est avec ses armées. Une bonne petite mère de famille, ou un bon grand frère, ou même un petit frère, on peut utiliser sa faiblesse ou ses limites comme une arme de toute puissance. C'est-à-dire d'emprise sur l'autre, d'influence, et d'étendre son influence. Donc ça, c'est la marque vraiment de l'immaturité, du péché comme qui détruit ou qui sclérose l'homme humain dans son angoisse, dans un non-développement, parce que quelque part, je crois que le petit bébé n'est pas capable, dans un premier temps, d'alliance, justement. Il se jette sur le sein de sa mère, hein, et puis il mange. Puis peu à peu, l'alliance va ouvrir par le regard, il y a des choses qui vont se déployer peu à peu. C'est les mamans qui pourront dire ça de quoi, mais... Voilà, donc comment passer d'un être de toute puissance, et on peut avoir 80 ans et avoir beaucoup de mal à sortir de ça, et puis on peut être un enfant, un petit enfant, et être déjà très avancé dans la capacité d'alliance. Et pour faire alliance, il faut savoir qui je suis. C'est frappant chez les enfants, enfin, je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles, parce que je ne suis pas compétent, mais par le peu que j'ai pu faire un peu avec les jeunes ou les études. Pour faire alliance, pour entrer en relation libre, il faut savoir un peu qui je suis. Et plus je vais déployer mon alliance, d'ailleurs mes capacités d'alliance, et plus je vais savoir qui je suis. Pour ça qu'une alliance fondamentale, c'est l'alliance avec Dieu. C'est que devant Dieu, j'apprends qui je suis. Ben, je suis celui qui peut entrer en relation avec Dieu. C'est déjà quelque chose qui est le plus profond qui soit. Et on voit chez un petit enfant qui a la chance de pouvoir connaître celui qui habite son cœur et en parler, une étonnante capacité à se situer par rapport à Dieu et à parler de Jésus, de Dieu, de façon incroyable, alors là même qu'il est peu encore éduqué, qu'il maîtrise même mal le langage, il est capable de ça. Je pense que beaucoup de mamans pourraient en témoigner ici, de catéchistes. C'est aussi un lieu de guérison très profonde. Alors Saint-Augustin en parle, il en parle dans son traité sur la Trinité, précisément, où il dit que c'est un lieu de guérison très puissant. Donc finalement, un homme qui, comme Saint-Augustin l'a fait, n'a cessé de fuir sa propre identité, de fuir qui il est dans un hyper-activisme ou une quête effrénée de connaissances et de pouvoir chez Augustin. Et un jour se découvre devant Dieu, parce qu'il découvre Dieu, donc il se découvre devant lui, et un chemin de guérison s'ouvre, de guérison profonde de son identité. Je ne suis pas le fils de mon père alcoolique, je ne suis pas le fils de ma mère je ne sais pas quoi, je ne suis pas le petit frère d'un grand frère tyrannique ou de je ne sais pas quoi, enfin toutes les souffrances qu'on peut vivre dans sa jeunesse, de toutes sortes de choses. Ce que je suis de plus profondément, c'est cet être bien-aimé de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et ça nous réconcilie avec les couches les plus profondes de notre être et permet de reconstruire sur ces socles solides, peu à peu, une identité et à déployer cette identité dans les alliances. Voilà, avec une communauté. Vous vous souvenez, dans la première séance, donc c'était le tout début du Concile Vatican II dans la Constitution sur la relation divine, le Concile cite la première lettre de Saint Jean. Il dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé du Verbe de Dieu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous, et nous sommes en communion avec le Père et le Fils. » Donc on voit que le but, c'est cette double communion, la communion avec Dieu, par et dans la communion humaine, afin que vous soyez en communion avec nous. Autrement dit, la prédication, l'enseignement, tout ce qu'on peut annoncer de la parole, de mille manières, et c'est ce que j'espère nous ferons au sein des fraternités Emmaüs, ce que nous faisons ce soir, comme tout le mercredi soir, le but, c'est d'ouvrir une relation une communion nouvelle entre des personnes. Et c'est ça le but finalement, c'est pas autre chose. C'est pas une communion pour faire passer des connaissances, c'est des connaissances pour créer une communion. Parce qu'en fait, finalement, notre déploiement, ce que nous sommes dans notre personne humaine, va trouver une paix, un équilibre dans cette communion et avec Dieu et avec la communauté. Et une fois qu'on a, on a cela, ben, on n'a besoin de rien d'autre. Bien sûr, tout ça dans un processus, dans des temps, ça je vais poursuivre ça. Pardon, ceci dans une histoire, bon, c'est le point suivant. Enfin, donc dans une histoire, c'est dans un processus, ça je vais le voir un peu après, mais dans une histoire aussi qui est plus large, donc cette communauté humaine, elle traverse l'histoire, c'est ça que je veux dire. Et donc nous lisons le Concile, qui a 50 ans, nous lisons Saint-Augustin, nous lisons un témoignage de l'Ancien Testament qui a plus de 3000 ans. Notre communauté humaine, elle traverse les âges. Alors nous la vivons dans la foi, en plus dans la communion des saints, c'est-à-dire David, c'est quelqu'un qui existe, qui est vivant. C'est un vivant, David. Abraham aussi est un vivant. Augustin est un vivant. Jean 23, le pape de l'Université du Concile est un vivant. Paul VI aussi. Ils font partie de la famille. Donc c'est une communion, pas seulement dans la mémoire historique de ce qu'ils ont dit, mais c'est aussi une communion des saints dans l'histoire. Et c'est capital, me semble-t-il, je pense au patronage, mais aussi au catéchisme, à et à nos familles, de faire entrer les enfants dans cette communion, dans l'histoire, qu'ils connaissent d'où ils viennent, qui sont leurs pères, finalement, qui sont nos pères. Voyez. Et alors, dans le lien, je mets maintenant l'invitation de l'un d'entre vous. À chaque fois, tous les deux semaines, donc le lien sort, je vais mettre un livre, une biographie, plutôt une biographie d'un saint, et puis je vais reprendre à chaque fois un conseil pour l'oraison. Mais surtout une biographie d'un saint, parce que je crois profondément à ça. En connaissant des saints, eh bien, on sait d'où on est, qui on est, en fait. Ça construit profondément notre unité à travers les âges, à travers l'histoire. Et puis des saints au sens très large du terme, dire, quand on dit Robert Schumann, la fille de Robert Schumann, ben, voilà. Alors avec la nature, je vais aller vite. Un jour, on pourra faire un vrai travail, un peu comme nous faisons là, 15 séances sur la date aussi. Ça serait absolument passionnant, vraiment passionnant. Et puis de la mettre en œuvre. Alors on essaie de faire, Laudato si, c'est l'encyclique du pape François sur l'écologie. On essaie de mettre en œuvre très modestement, mais avec le patronage. Et vous êtes tous les bienvenus pour nous y aider, d'ailleurs, le mercredi après-midi, si vous avez des idées. Mais ça, c'est tout un, parce qu'on passe de la communion avec l'homme à la communion avec l'histoire, avec l'histoire et la nature. C'est tout un pour le pape François, tout est lié. C'est-à-dire le respect et l'ouverture au cosmos est lié au respect et l'ouverture à l'autre, et notamment au plus petit, au plus fragile, de considérer toujours l'autre finalement comme quelqu'un de fragile. Je ne sais pas, j'ai réalisé ça il n'y a pas très très longtemps, c'est l'âge. Beaucoup pourraient me dire avec vous, avec moi, que dans notre histoire personnelle, on a vu beaucoup de personnes s'effondrer. Et nous-mêmes, nous avons peut-être connu un effondrement. C'est des gens qu'on pensait très fort et puis qui s'effondrent. De différentes manières de s'effondrer, physiquement, psychiquement, socialement. Enfin, voilà. Et moi, je me dis, l'homme est fragile, quoi. Nous sommes fragiles. Et même quand on est en conflit ou en désaccord, pour se défendre, parce qu'on croit qu'on est les seuls fragiles, on peut taper ou on peut résister fortement. Il faut toujours se souvenir que l'autre en face de moi, il est fragile aussi. Et donc, cette fragilité humaine, eh bien, elle rejoint ce que le pape François demande de l'attention et de la considération pour les personnes. Et il fait le parallèle avec la nature et le cosmos, qui peuvent paraître très forts aussi et qu'on peut bousculer et frapper avec nos machines indéfiniment. Et puis qu'on est en train de découvrir comme étant en fait très fragile, et même capable d'être totalement détruit par nous. Donc c'est une alliance qu'il faut faire avec et les autres et avec la nature, où chacun est lui-même et respecté pour ce qu'il est, selon ses lois, et on ouvre une relation et une histoire ensemble. Et c'est vrai pour la nature. Bon, ça va être trop long de le citer, mais je le dis de mémoire, dans Gaudium et Spes, donc au chapitre au numéro 36, que je vous encourage beaucoup à lire, c'est un numéro absolument capital pour la relation à la nature, où les pères conciliaires disent bien que on ne peut entrer en relation avec la nature que si on connaît et on respecte les lois propres de la nature, si on en a une connaissance scientifique, rigoureuse, parce que elles ont leurs lois propres, et c'est en les connaissant qu'on les respecte et qu'on peut entrer en alliance avec eux. Et donc la connaissance, entrer en alliance avec la nature, ou avec ces différents aspects de la nature. Et donc la connaissance scientifique, la connaissance de ce avec quoi je fais alliance, est une nécessité de justice et de charité, en fait. De charité vis-à-vis de la nature, on pourrait le dire, vraiment, eu égard à celui qui l'a créé. Bon, j'ai l'impression que je patine un peu, là. Alors, là, je vais aller avec le pape François, davantage que le concile. Donc, c'est un des... Vous savez, ça permet certainement de découvrir dans un texte quelque chose qui vous habite, mais que vous n'avez pas encore mis en mots. Tout à coup, vous le voyez et vous dites, bon sang, c'est exactement ça que je veux, que je pense, quoi. Et donc, quand j'ai lu cette interview du pape François, toute première interview qu'il a eue dans la revue Études, où il parle, pour la première fois, on entend parler des processus, il va en parler. Dieu se manifeste dans une révélation historique, dans le temps. Le temps initie les processus, l'espace les cristallise. Dieu se trouve dans le temps, dans les processus en cours. Nous devons engager des processus, parfois longs, plutôt qu'occuper des espaces de pouvoir. Dieu se manifeste dans le temps et il est présent dans les processus de l'histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des dynamiques nouvelles. Cela requiert patience et attente. Voilà, donc c'est exact, ça c'est la logique du royaume de Dieu, d'ailleurs, tel que décrit Jésus, où il compare le royaume à un processus d'une graine qui germe, qui grandit, qui est fragile, qui peut un peu prendre la force, qui fleurit et puis qui porte du fruit. Donc le royaume est bien un processus, et quand le pape dit ça, évidemment, il ne fait que dire avec des mots modernes, en quelque sorte, ce que Jésus dit dans l'évangile, quand il compare le royaume à une réalité terrestre. Alors, j'ai un autre texte, donc cette fois-ci tiré de l'Evangelium Gaudium, vous savez, le premier, la joie de l'évangile, son premier texte. Un des péchés qui parfois se rencontre dans l'activité sociopolitique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des processus. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et de toute affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier les processus plutôt que de posséder les espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire, les transforme en maillons d'une chaîne, en constante croissance, sans chemin de retour. Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants, sans inquiétude mais avec des convictions claires et de la ténacité. Donc il redit un peu différemment. Alors ça, comme homme, comme prêtre, comme pasteur, j'y crois vraiment beaucoup. Et pour moi, les fraternités Emmaüs, ou le patronage, sont des processus qui démarrent, qui sont modestes dans leur nombre, qui n'ont pas et qui n'ont comme but que d'initier une dynamique que d'autres personnes que moi vont à laquelle ils vont s'agglomérer et vont apporter leur propre vision, leur propre je dirais, bagages, vont alimenter en quelque sorte ce dynamique, ce processus. Donc on ne sait pas exactement où ça va, on commence une dynamique qui a un but, qui sait pourquoi elle démarre, c'est la raison pour laquelle on travaille le concile, la parole de Dieu, on sait pourquoi on démarre, sur quel socle on s'appuie, mais on commence un processus dont on ne sait pas exactement quel fruit il va porter à terme. Et c'est très important qu'on soit dans cette démarche-là, pour que les personnes qui s'impliquent dans ce projet, eh bien, ne soient pas dans un espace de pouvoir où il faut avoir sa place, mais dans un projet qui est en train de se déployer et les personnes vont contribuer à alimenter ce projet, à donner leur part en quelque sorte à ce projet. Et cela se fait dans du temps, et dans du temps qui peut être long, des mois, des années. Pour moi, le processus Emmaüs, c'est un processus sur plusieurs années, plutôt 5-6. Le patronage, c'est pareil, c'est un patronage, c'est un processus sur 5-6 ans. À s'impliquant, etc. Donc, cette alliance dont je parlais, cette mentalité d'alliance, en quelque sorte, qui permet la perception des personnes, il faut la comprendre toujours dans un processus, et pas dans un espace de pouvoir. Ça, c'est vraiment aussi très important. Ça se fait dans le temps des alliances, ça se fait par étapes, ça se construit peu à peu, ça ne se fige pas. Que ce soit une alliance avec Dieu, donc là, le pape le disait dans le texte précédent, Dieu se donne dans ses processus, dans cette histoire. C'est pour ça aussi que c'est tellement important de lire des vies de saints et de lire les Écritures, de voir finalement, de surplomber toute une histoire, l'histoire d'une vie, ou l'histoire d'Israël dans telle ou telle étape, et de voir par quel méandre et comment Dieu s'est fait connaître et a touché une vie. Non pas par coup de bombe nucléaire ou de choses violentes, mais par des processus de long terme, et qui ne sont lisibles parfois que 10-20 ans après le processus initial. C'est cette sagesse-là, en quelque sorte, que portent les Écritures, que porte la vie des saints, et qui du coup nourrit notre patience et notre ténacité, comme le dit le pape François. Alors je suis très pape François ce soir. Bon. L'objectif de ces processus participatifs, donc on peut considérer que Emmaüs est un processus participatif, en tout cas vocation à l'être, et il y a encore beaucoup à faire pour que ça soit pleinement, ne soit pas principalement l'organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d'arriver à tous, 700 pratiquants solidaires des 52 000 habitants du confluent. C'est ça, vraiment, l'enjeu, il est là. Quel processus les 700 mettent en route pour rejoindre les 52 000? Pour moi, c'est ça le plus important. Et pas dans un truc rêvé, pas dans un truc parlé, mais dans quelque chose de concret que peu à peu on met en place, laborieusement, par étapes, par alliance, mais avec une dynamique interne qui fait que ça se déploie, je dirais, au bout d'un moment, un peu tout seul. Il y a comme une dynamique qui se met en route et ça se déploie par lui-même. Mais on n'y est pas encore. Ça, c'est pour nous encourager. Mais on n'y est pas encore. Ceci dit, ben voilà, votre ténacité à venir quand même le mercredi soir, déjà, est un signe. Hein. Alors, une question vitale pour la communauté et pour nos jeunes. C'est vrai que la jeunesse, on peut dire, peut être impatiente, mais elle est mobile. Et donc, les espaces de pouvoir à conquérir, ça leur parle beaucoup moins qu'un projet, une dynamique qui agglomère des personnes différentes et qui grandit. Et donc, il y a aussi un enjeu pour nous d'avoir un comportement qui les rejoint et donc qui leur permet d'avoir leur place. Et là aussi, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire pour nous tous dans la communauté. Accueillir les comètes et nous donnerons la vie promise par Dieu. Quiconque a fait un peu de catéchuménat ou a rencontré des personnes qui s'ouvrent à la foi découvre que c'est du feu nucléaire, c'est vraiment, il y a quelque chose du don de Dieu qui nous est fait, qui est un don fragile, enfin dans une personne, un don solide, mais dans une personne fragile. Donc cette personne, elle a besoin de la solidité des vieux troncs que nous sommes, cette petite fleur merveilleuse qui nous émerveille, une foi qui naît, eh bien, elle doit trouver une branche sur laquelle vraiment s'accrocher solidement. Et les vieilles branches, ben, c'est nous. Et notre joie, ce sera de voir fleurir des comètes. Nous, on ne fleurira plus vraiment, on ne pourra pas redevenir « Ouais, Jésus !» Ce ne sera pas facile. Par contre, on peut beaucoup aider les « Ouais, Jésus !» à tenir le coup et à grandir et à mûrir et à porter du fruit. Ça, oui, ça, c'est notre job. Et ça fera notre joie. C'est une joie de paternité, finalement. Voilà, le troisième point, ben, on l'a compris. Alors, un petit mot peut-être, sans trahir tous les secrets, Jean-Paul, il peut quand même te dire pour le travail. Peut-être non. Est-ce que tu peux dire un mot juste sur le fait qu'on y travaille et qu'on réfléchit déjà?
Arnaud nous a emmenés, on était trois. Donc Noëlla, Marc et moi, il nous a emmenés samedi dernier à une réunion au diocèse sur justement cette, ce rêve missionnaire qui est indiqué là, sur la façon dont les différentes paroisses se mettent en route. On a vu des choses merveilleuses, on a écouté. Et puis on a pris un temps entre nous, tous les quatre, pour réfléchir à ce que pourraient être les fraternités Emmaüs, qui doivent être à la fois lieu de vie pour nous, lieu de fraternité entre nous, et aussi lieu d'accueil, lieu où on se confronte à la parole, comme on le fait là, mais aussi lieu où on parle de sa vie, de ce qui compte dans sa vie, je veux dire qui est les deux. Et donc, on s'est promis d'essayer d'écrire un papier qu'on essaiera de vous proposer le moment venu, disons en février, pour qu'il y ait une façon d'être, pour lancer un processus. Hein. Et bon, voilà, je ne sais pas, Marc, si tu veux compléter.
Non, mais on est effectivement dans cette logique d'essayer de définir une façon dont on pourra cheminer ensemble et la définir pour que ça soit dans des équipes différentes un cheminement commun. Donc voilà, la réflexion qui est en cours.
Merci. S'il y a des questions.
Le micro, c'est une
petite chose qu'on se dit, c'est que la dernière séance là de formation avec Arnaud, ça sera le 5 février, et que on faudra qu'on se propose de faire une réunion après les vacances de février, justement pour prendre le temps ensemble de partager ce que pourront être concrètement ces fraternités Emmaüs.
Merci beaucoup. Alors peut-être y a-t-il des questions sur les textes, le topo, on a jusqu'à 10. Voilà, j'aime bien les questions, si vous avez des questions ou une demande d'éclaircissement.
C'est pas une question, c'est une remarque, agréable à dire, dans le sens que quand on parle d'anthropologie chrétienne, parfois on a beaucoup insisté sur la turpitude de l'être humain et d'autres joyeusetés comme ça. Alors j'étais pas là la semaine dernière, donc je sais que vous avez abordé la question depuis chez Originel, mais quand même dans l'histoire et surtout dans l'esprit de pas mal de gens, et malheureusement des non-croyants, il y a vraiment cette idée que l'être humain est essentiellement un être humain marqué par le péché, et là je suis quand même très content de voir qu'on considère que c'est aussi un être de relation et d'amour.
C'est la bonne nouvelle du jour.
On a bien compris que l'homme était un être de relation, et pour être en communion, il fallait qu'il se soit par et dans la communauté. Et on s'est fait poser la question des ermites qui sont tout donnés à Dieu, mais il n'y a pas cette vie sociale en communauté.
Alors, dans la règle de Saint Benoît, qui fait vraiment autorité sur cette question-là, il est interdit à des moines de partir en ermitage seul, je crois que c'est avant 20 ans de vie monastique. Et donc, si c'est pas plus. Donc vraiment, c'est pour des personnes qui ont une vie communautaire déjà très profonde et mûre. Et je dirais, à l'intérieur de leur vocation monastique, il y a comme une vocation particulière à la vie érémitique. Mais précisément, vous savez bien, Sylvie et tous, et moi aussi, combien, quand on part seul, on part avec soi-même quand même, et ça, on ne peut pas y échapper. Et soi-même, surtout quand c'est à la fin de la vie comme ça, enfin après 20 ou 30 ans de gymnastique, soi-même, c'est beaucoup de relations, toute une histoire, beaucoup de belles choses reçues et aussi de coups, reçus et donnés. Et donc, on part avec ses démons et avec ses anges, quoi. Et donc, les ermites continuent finalement le combat de l'amour et communautaire et avec Dieu seul. Mais ça, c'est pour ceux qui ont déjà leur vie derrière eux. Ça, dans la tradition monastique, c'est comme ça. Parce que même les moines du désert, les moines égyptiens au IVe siècle, ils sont en cellules, mais en fait, c'est des grappes de cellules. C'est des monastères qui se retrouvent, enfin, c'est un peu comme les chartreux, quoi. Ils sont en cellule, mais ils se retrouvent pour les repas, pour vivre ensemble, pour la messe, pour tout ça. Mais seul, c'est possible, mais c'est interdit avant, je ne sais plus combien, c'est 20 ou 30 ans de vie monastique, dans la règle de Saint-Benoît.
Pas compris ou pas accepté, je sais pas. C'est quand on parle d'alliance, pour moi c'est des alliances de personne à personne. Et donc je vois pas pourquoi on peut parler d'alliance avec la nature. En fait, c'est alliance, c'est respect de la nature, respect de la création, parce que la création est au service de l'autre aussi, et donc de l'autre personne, et donc c'est mon alliance avec l'autre personne qui fait que j'ai un profond respect pour la nature. Je n'ai pas une alliance avec la nature.
Oui, c'est vrai que c'est, je suis d'accord, c'est une image, mais quand même qui est parlante. C'est parce que je connais mon cheval, que je sais ce que c'est qu'un cheval, je sais ce dont il a besoin, comment il réagit, comment il est fatigué, comment il est content, ce qu'il va pouvoir encore donner, qui ne peut plus donner, etc., etc. C'est ça l'alliance avec le cheval, en quelque sorte. Mais c'est pas une alliance, c'est une alliance de connaissance, c'est-à-dire je connais ce avec quoi je travaille, ce avec quoi je vis. C'est ça qui est derrière. Et justement, dans les alliances personnelles, malheureusement, on fait bien souvent beaucoup moins bien qu'un cheval. C'est-à-dire qu'avec mon cheval, justement. Parce que je noue un lien d'intérêt ou de collaboration avec la personne, mais je ne connais pas du tout la personne, en fait. Je connais rien d'elle. Ou je connais si peu d'elle. Et je ne connais pas ce avec qui je travaille et avec qui je fais alliance. J'ai été très frappé, par exemple, j'ai testé sur ma propre famille un partage de la parole de Dieu, évidemment, parce que c'est ma folie. Et donc, on l'a fait en famille avec mon frère et ses 4 enfants. Juste avant de célébrer la messe en famille. Et donc, tous les enfants ont dit à tour de rôle ce qu'ils avaient, c'était la fin des vacances, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé dans leurs vacances. Eh bien, on n'avait jamais demandé ça, notamment au plus petit, qui a dit des trucs, et les parents étaient par terre, quoi. D'étonnement. Non, c'est leur enfant, et on peut dire qu'il les connaît. Mais, en fait, d'abord, ils découvrent que un peu plus que leur enfant est un mystère, on croit connaître les personnes parce qu'on les voit toujours sous un même angle, mais en fait on ne les connaît pas du tout. Mais surtout, il faut pouvoir se donner des lieux ou des espaces où la personne peut se faire connaître là où on n'attend pas, quoi. Comme un espace de dialogue, par exemple, après un partage de la parole où l'écoute mutuelle est maximale, parce qu'on est tous égaux devant la parole. Donc voilà, malheureusement, dans les alliances humaines, on fait moins qu'avec le cheval. Donc c'est vrai que c'est une image, mais quand même, c'est pas...
Mais Saint-François était quand même très proche de la nature.
Oui.
Il était en communion quand même.
Oui, en Christ, quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que nous, derrière la nature, vous êtes créateurs, c'est évidemment. Mais on loue le créateur, non pas en voyant Jésus dans une colombe, l'Esprit Saint dans une colombe, mais on loue le Créateur en connaissant ce qu'est une colombe et comment je peux non seulement l'approcher, mais vivre avec elle. Et je sais pas, enfin c'est des choses toutes petites, mais dans mon jardin, mais je fais exprès d'essayer un certain nombre de choses pour que les oiseaux se nourrissent. Je fais exprès de... L'été, j'ai toujours une vasque d'eau dans mon jardin pour que les enfants... Parce que c'est difficile pour les oiseaux de trouver de l'eau. Mais c'est pas... Enfin, peut-être de trouver une mièvre, elle est stupide, mais c'est une manière pour moi d'être en alliance avec le Créateur par la médiation de sa création, comment en connaissant les besoins de mon environnement immédiat. Même si c'est très modeste et... Donc là, mais c'est vrai que c'est pas un peu analogique, j'en conviens.
Je peux dire quelque chose? En fait, tout à l'heure, quand vous évoquiez l'alliance, la nature, le respect de la nature, moi je me disais que dans le mot alliance, il y a le fait d'être lié. Et je me dis, on est lié à la nature. Donc moi, c'est par cette porte-là que je dirais qu'il y a alliance avec la nature. Voilà, puis nous sommes créatures, et voilà. Dans la nature, il y a d'autres créatures, donc nous sommes liés par ce fait-là. Donc pour moi, ça ne gêne pas trop de parler d'alliance.
C'est bon, pas de questions rentrées.
Dans bon. la lettre de Pierre, on n'a pas réussi à découvrir le sens de la charité couvre une multitude de péchés. Ce terme de couvrir, on voyait pas le rapport entre la charité et la notion de couvrir le péché.
Vous avez peut-être des idées les uns les autres. Oui.
J'ai l'image du camembert. On avait travaillé il y a quelques années sur, par exemple, travailler sur la bienveillance, mais pas que la bienveillance. Et plus on essaye de travailler sur quelque chose qui est positif comme ça, je ne vais pas dire que ça gomme la malveillance, mais quand on s'applique à travailler sur quelque chose qui donne la vie, qui démultiplie oui, la vie, et ben, ça met un peu de côté, ça baisse le niveau de... Enfin, je ne sais pas, je l'exprime avec beaucoup de maladresse. Et le camembert, pourquoi le camembert? Parce que... Oui, merci. Le camembert, c'est que ben, plus on développe une part du camembert, plus ben, ce qui reste est petit. Voilà. Bon, c'est... Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais moi, ça me parle, je ne sais pas si ça peut parler à d'autres.
Je dirais une chose, peut-être, ça va peut-être beaucoup moins vous parler, mais c'est que là, il s'agit de charité, donc il ne s'agit pas seulement de simple gentillesse. Donc en fait, la charité, là, il s'agit de l'amour dont nous sommes capables d'aimer comme le Christ, enfin, l'amour du Christ, l'amour dont le Christ fait preuve à travers nous. Et donc c'est un amour de miséricorde. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'amour justement qui prend patience, qui est doux, c'est-à-dire qui ne tape pas alors qu'on devrait taper, et qu'on est légitime à le faire, mais on ne le fait pas. C'est l'amour aussi qui est humble, donc qui ne se met pas en avant. Et donc, c'est ça la charité dont il s'agit. Et du coup, si j'aime de l'amour, vraiment de l'amour dont le Christ aime, c'est forcément un amour de miséricorde. Et donc, je comprends pour moi-même de quel amour je suis aimé. De quelle miséricorde je suis aimé moi-même. Et c'est en ça que ça couvre mes péchés. C'est que du coup, mes péchés, je peux comprendre qu'ils sont vraiment pardonnés. Je goûte, je comprends intérieurement qu'ils sont pardonnés par le Christ. Et ça, je ne le comprends que quand moi-même, je fais œuvre de miséricorde, c'est-à-dire de charité. Je le comprends sinon de façon extérieure, mais j'y crois pas vraiment. Parce que je suis encore dans la dureté de mon cœur. Donc c'est une expérience, en fait, de la miséricorde dont je suis bénéficiaire. Je pense que c'est ça, de façon un peu conceptuelle, mais... Ouais.